Alors, je suis membre dans cette église à partir d'aujourd'hui, donc je peux prêcher ici, c'est légitime. Donc aujourd'hui, je commence par une question, comme d'habitude. Dieu peut-il avoir un fils? Qu'est-ce que ça veut dire d'être le fils de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire cette idée bizarre? La Bible dit à plusieurs reprises que ceux qui croient avec foi sont des fils de Dieu. Même les anges sont décrits comme fils de Dieu dans certains textes. Mais beaucoup plus souvent, c'est Jésus qui est appelé le fils unique de Dieu. Dieu peut-il avoir un fils? Il ne s'agit certainement pas de s'imaginer les dieux de la mythologie qui, par leur promiscuité sexuelle, ont transmis leur ADN à la génération suivante. Jésus n'est certainement pas le rejetant demi-dieu issu d'une relation entre Dieu et Marie. Pour nous chrétiens, nous croyons que Jésus est l'homme-dieu. L'homme-dieu. Complètement homme, complètement Dieu. Les deux natures étant jointes l'une à l'autre d'une manière inexplicable. Mais quand nous réfléchissons à la relation entre le Père et le Fils, comment faut-il comprendre cette relation? Pour nous, la relation entre un parent et son enfant signifie la transmission de nom de famille. Ça signifie une bonne ou une mauvaise relation familiale. Par exemple, ça signifie aussi une responsabilité. Et à l'époque de Jésus, ça voulait dire la transmission d'une réputation, d'une profession, ainsi que la transmission de richesses ou de dettes. Les parents transmettent ces choses, les enfants les reçoivent. Nous savons que Jésus, en tant que fils, a reçu ces choses de son Père terrestre, mais aussi de son Père céleste. Nous savons que le Père terrestre de Jésus était Joseph, le charpentier. Joseph n'était pas le Père biologique de Jésus, mais comme il était son Père adoptif, Jésus aussi a devenu charpentier. Il faisait comme son Père terrestre. De même, nous savons que le vrai Père de Jésus est le Père céleste. Donc Jésus a aussi fait comme son Père céleste. Il a hérité des prérogatives, des attributs et de l'œuvre de son Père. Donc aujourd'hui, je voudrais étudier la relation qu'il y a entre Jésus et son Père céleste. C'est une relation qui est conditionnée par la nature de la Trinité et qui est fondée sur l'amour. Nous allons donc examiner deux idées principales. D'abord, l'amour du Père pour son Fils permet au Fils d'avoir l'autorité sur la vie. Ensuite, l'amour du Père pour son Fils permet au Fils d'avoir l'autorité en ce qui concerne le jugement. Enfin, on verra aussi que l'amour du Père pour son Fils permet notre adoption dans la famille de Dieu. Donc aujourd'hui, je vous invite à trouver dans vos Bibles Jean chapitre 5 et on va lire les versets 19 à 30. Jean chapitre 5, 19 à 30. Jésus leur répondit donc, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui il veut. De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il a donné le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie. Ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Moi, je ne peux rien faire par moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour ta parole qui nous fait connaître ta volonté et ton plan de rédemption, Seigneur. Nous te demandons la lucidité et la clarté d'esprit au moment d'étudier ce texte. Rends-nous sensibles à ce que tu as pour nous dans ta parole aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Avant de réfléchir à l'autorité de Jésus sur la vie et son autorité en ce qui concerne le jugement, je voudrais insister sur le fait que cette autorité de Jésus est possible grâce à la relation d'amour entre le Père et le Fils. Il y a un amour parfait qui existe entre les trois personnes de la Trinité. Un amour éternel qui n'est dépendant de rien. L'amour de Dieu n'est pas besoin d'avoir un objet. Pour nous, les êtres humains, nous avons besoin d'avoir un objet d'amour avant d'avoir l'amour. S'il n'y a pas quelqu'un ou quelque chose à aimer, on ne peut pas aimer. Mais ce n'est pas du tout le cas avec la Trinité. Il y a un amour parfait et éternel au sein même de la Trinité, parce qu'il y a une relation parfaite et éternelle entre chaque personne de la Trinité. L'idée de l'amour dans la Trinité est évidente quand on regarde les versets 19 et 20 dans ce texte. 19 et 20. Le Fils imite le Père, et le Père montre tout au Fils, parce qu'il y a une relation d'amour entre les deux, comme j'ai déjà dit. À l'époque de Jésus, un fils faisait probablement le même métier que son père. Si vous avez vécu à cette époque-là, et si votre père avait été fermier, vous seriez donc devenu fermier. Si votre père avait été dans le bâtiment, vous seriez donc dans le bâtiment. Alors imaginez que vous viviez au premier siècle. Votre père est cuisinier du roi. Okay? Sa responsabilité est de créer les meilleurs repas possibles, de trouver les meilleurs ingrédients et de toujours être sûr que le roi est satisfait. Imaginez qu'un jour votre père vous dit « Je suis trop vieux pour continuer mon travail. C'est à toi de cuisiner pour le roi. » Alors, imaginez qu'il vous transmette beaucoup d'enseignements sur l'art de la cuisine, mais ensuite il vous dit « Désolé mon fils, mais tu ne peux pas avoir mes recettes secrètes qui sont les favorites du roi. J'espère que tu pourras découvrir quelque chose qui lui plaise, car sinon je ne préfère pas imaginer ce qu'il va te faire. » Alors, il vous donne une tape dans le dos, il rit, et il part. Vous êtes maintenant tout seul dans la cuisine et le roi attend son repas. Tant pis pour vous. Mais ça, c'est pas du tout la manière dont le Père céleste traite son fils Jésus. Et ce n'est pas la manière dont il nous traite. Le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Cette relation d'amour est la base de la transmission de l'autorité sur la vie et en ce qui concerne le jugement. Je vous invite donc à regarder ce que le texte dit concernant l'autorité de Jésus sur la vie. Comme nous l'avons déjà vu dans ce texte, le Fils imite son Père. Jésus imite son Père d'une manière parfaite au niveau de la volonté et au niveau de l'action. Bien que le Fils Jésus soit le Fils unique de Dieu, et bien qu'il soit appelé Dieu, justement, il est toujours soumis à son Père. Dans ce texte, le Fils révèle le Père. Alors, une des choses que Jésus révèle est la vie. En gros, Jésus a l'autorité sur la vie. Comme son Père, il est le créateur de la vie. Comme son Père, il est celui qui ranime la vie. Et comme son Père, il est celui qui soutient la vie éternellement. Le verset 21 dit que Jésus fait vivre qui il veut. Il fait vivre qui il veut. Ici, il y a un sens à la fois immédiat et eschatologique. La vie que Jésus nous donne est immédiate parce que comme on le voit dans Éphésiens chapitre 2, nous sommes morts par nos fautes, nous sommes morts par nos péchés. Spirituellement, la vie nous est rendue en Jésus. De même, on ne peut pas séparer la vie nouvelle présente des croyants de la vie nouvelle que Jésus va donner physiquement à la résurrection. Regardez le verset 25 de Jean chapitre 5. Jésus dit que l'heure vient et c'est maintenant. L'heure vient et c'est maintenant. Les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ce pouvoir sur les morts est possible parce que le Père a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ce pouvoir est donné au Fils pour l'éternité. Jésus a ce pouvoir parce qu'il est Dieu. Peut-être connaissez-vous l'histoire de Frankenstein de Mary Shelley. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Frankenstein et qui a créé une vie. Il a trouvé et assemblé des morceaux de corps humain pour ensuite donner vie à sa création. Mais dans l'histoire, Frankenstein est repoussé par ce qu'il a créé. Il en arrive finalement à détester le monstre qu'il a créé. Et en fin de compte, il perd le contrôle de sa créature. Frankenstein a donné la vie à un homme, mais n'a pas soutenu cette vie. Il a donné la vie à un homme, mais il ne l'a pas aimé. Il a créé une vie, mais il ne lui a pas offert la possibilité de l'éternité, de la rédemption ou de bonheur. Par contre, Jésus a l'autorité complète sur la vie de sa création. Il est le créateur, le régisseur et le rédempteur. Ce que Jésus est en train de dire dans ces versets, c'est qu'il y a en tant que Fils le Seigneur, qu'il est en tant que Fils le Seigneur, souverain de la vie de chaque individu, la vôtre et la mienne. Deuxièmement, je vous invite à regarder ce que le texte dit à propos de l'autorité de Jésus en ce qui concerne le jugement. Dans ce texte, Jésus insiste sur le fait que Dieu lui a donné le métier de juge, à la fois dans le présent et dans l'avenir. Souvent dans la Bible, Dieu exerce ses jugements sur la création. Il juge les nations. On voit son activité en tant que juge quand il détruit Sodome et Gomorre, dans le livre de la Genèse, par exemple. On voit son jugement contre les Égyptiens, dans le livre de l'Exode. Dans le livre de Josué, on voit son juste jugement contre les Cananéens, à cause de leur mode de vie détestable. Plus tard, dans son jugement, Dieu permet l'exil de son peuple Israël après leur rébellion obstinée. Tous ces jugements étaient faits par Dieu. Mais quand on considère le jugement final qui attend toutes les nations, c'est Jésus qui juge. On voit la nature de ce jugement particulièrement dans les versets 22 et 23 de ce texte, où Jésus dit que le jugement est à lui et que le but de son jugement est d'honorer Dieu. Alors, je sais que pour beaucoup, l'idée de jugement est un peu difficile à concilier avec l'amour de Dieu. Le Père...
J'ai
trouvé. Les premiers chapitres de l'Évangile des Jean, par exemple, parlent souvent de l'amour de Dieu. Okay? Le Père aime le Fils, par exemple. Le Fils aime le Père. Et le Père aime le monde. Donc il y a beaucoup d'exemples de l'amour de Dieu dans l'Évangile des Jean. Mais ce qui me frappe dans ces versets, c'est que le Dieu qui nous donne la vie par amour, dans sa grâce et sa miséricorde, c'est aussi le Dieu qui doit juger le monde dans sa justice et sa sainteté. Nous sommes tous déjà sous la colère de Dieu parce que nous avons péché contre sa sainteté. Mais par sa grâce, il y en aura quelques-uns qui seront sauvés de ce jugement pourtant bien mérité. Le jugement de Jésus est juste et ça honore Dieu le Père. Quand nous considérons les systèmes judiciaires institués par l'homme, nous pensons aux tribunaux, aux juges, aux lois et aux juristes. En Occident, nous avons peut-être la meilleure justice du monde. Il n'y a pas trop de corruption ni trop d'erreurs judiciaires, mais en même temps, nos juges ne sont pas toujours fiables. Il y a des gens qui sont accusés à tort. Il y a des criminels qui échappent à la police. Il y a des innocents qui souffrent. Il y en a qui profitent de la corruption judiciaire. Dans l'histoire de la France, on peut penser à la Révolution et aux milliers de personnes exécutées, souvent sans raison. La justice, souvent, est élusive. Malgré les problèmes de la justice ici-bas, nous avons, selon Jésus, un juge parfait qui fait toujours la volonté de Dieu le Père. Un jour, nous serons devant le trône de Jésus, le juge Jésus, et nous recevrons son verdict. Mais en tant que chrétiens, nous avons l'assurance de continuer dans la vie nouvelle en Christ, même après la mort. Ceux qui font le bien, par exemple au verset 29, sont ceux qui se repentent, qui croient et qui reçoivent la transformation de leur esprit et de leurs actes. Ce sont eux qui reçoivent la vie. En terminant, je voudrais répéter que Jésus a l'autorité de donner la vie et de prendre la vie à travers l'exercice de son jugement. Et tout ce qu'il fait, il le fait parce qu'il est le Fils unique et bien-aimé de Dieu. Dans l'Épître aux Éphésiens, on lit que par Jésus-Christ, les élus ont été prédestinés et adoptés par Dieu. C'est Jésus qui a l'autorité sur notre adoption dans son royaume. Et si dans la foi et la repentance, nous nous soumettons à l'autorité de Jésus sur la vie et dans l'exercice du jugement, nous sommes aussi adoptés en tant que fils et filles de Dieu. On lit dans Galates 3, verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. » Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous voyez que par la mort et la résurrection de Jésus, la porte du royaume de Dieu a été ouverte pour ceux qui croient. Parce que Dieu a un Fils qui a l'autorité, il y a trois choses que cela implique pour nous. Trois choses. D'abord, nous pouvons avoir l'assurance de notre salut. qui nous est donnée par Jésus, l'auteur de la vie. Donc nous pouvons avoir l'assurance de notre salut. Ensuite, nous pouvons renoncer à la peur de jugement, en sachant qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et finalement, nous pouvons honorer le Fils par notre repentance et la confession de son autorité dans notre vie. À Jésus soit toute la gloire, l'honneur et l'adoration. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Seigneur, nous reconnaissons que c'est toi qui es souverain dans notre vie et que c'est toi qui es notre juge souverain. Quelle assurance tu nous offres par ton règne sur notre vie ici-bas et dans l'au-delà. Nous avons la joie de savoir qu'il y a une autorité fiable qui nous aime et qui nous guide. Jésus, Fils de Dieu, nous te prions de sanctifier nos cœurs par ta grâce et de multiplier ta joie dans notre esprit. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.